La chemise arrive.
Info, invité, reportage
sur Radio Saint-Afrique.
Ce soir et demain, la compagnie Théâtre Molotov nous sert un verre de son 8e cocktail, Parcelle de création. Nous les avons rencontrés au petit carré d'art. Les textes sont de Nadège Prunière que nous avons rencontré.
Fuck yourself, shut in yourself! Je suis au bord des larmes, je suis au bord du drame. Regarde, je vais balancer mon corps contre un rocher. Regarde, je vais me fracasser le crâne. Regarde, je n'existe pas. Regarde-moi crever. Fuck yourself, shut in yourself!
J'ai mis ma merde dans un sac plastique pour le descendre à la poubelle. J'ai fini de me préparer et puis je suis partie. J'ai mis les clés.
Nadège Prunière, nous sommes les Molotov, on veut finir en beauté. Est-ce que vous pouvez nous écrire un texte? Est-ce que ça s'est passé comme ça?
En quelque sorte, oui, mais on sait tous que la création artistique, c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est pas aussi simple que ça. Moi, j'ai rencontré les Molotov donc il y a maintenant plusieurs années, donc à l'occasion du cocktail set, voilà, qu'ils avaient créé. Et je dois dire que j'ai pris un coup de vieux en voyant leur travail. J'ai trouvé ça assez jouissif, drôle, enragé, insolent, très honnête aussi, sur une espèce d'état des lieux comme ça de leur génération, de qui ils étaient dans ce monde-là. Et ça m'a vraiment touchée. Et voilà, on s'est revus, on a échangé, donc ils m'ont demandé si je voulais bien les accompagner, voilà, sur une écriture pour un prochain projet. Et il n'y avait pas vraiment de sujet au départ, l'idée de quelque chose plutôt d'ultime, une sorte de dernier acte, de dernier voilà, point tendu comme ça, le pied de nez fait au théâtre. Donc c'était un peu vaste, voilà, comme sujet au départ. Et puis tout simplement en travaillant avec eux sur l'improvisation scénique, voilà, sur de la parole, de l'échange, on a commencé à dessiner, voilà, la possibilité d'un texte.
Quatre personnages différents qui, eux, se mettent en scène eux-mêmes. Il n'y a pas de mise en scène extérieure. Est-ce que c'est facile d'écrire pour quatre personnes aux personnalités différentes?
L'écriture en soi n'est jamais facile, mais disons que mon écriture a cette particularité d'écrire ce qu'on appelle du sur-mesure. Donc plus les personnalités sont typées poétiquement, si je puis dire, plus c'est facile, entre guillemets, d'écrire, parce qu'ils ont un univers bien à eux, une identité pour chacun bien particulière. Donc du coup, c'est très agréable de plonger, voilà, comme ça, à travers chacun, et de dessiner la possibilité d'une langue ou d'un personnage pour les uns et les autres.
Alors, est-ce qu'on va retrouver ce qu'on a connu ici, au petit carré d'art de Nadège Prunière, où ils ont vraiment phagocyté le texte et ils ont mis autre chose? Parce que le spectacle, vous ne l'avez pas vu encore?
Non, pas encore, non. Je ne sais pas, moi j'espère qu'ils vont surtout s'approprier cette écriture. Alors là, c'est une drôle de pièce que je leur ai écrite, puisqu'elle n'est pas encore complètement aboutie. Hein, c'est d'abord l'idée là, qui présente une espèce d'étape, voilà, dans ce travail de recherche qu'on mène ensemble autour de la dramaturgie d'un possible, voilà, de cet acte ultime que serait une dernière pièce de théâtre.
Je vais t'offrir ce que le verre va dans le bide, je vais tout te donner. Numéro 40.
Tout à l'heure, il disait que voilà, chacun avait été, vous aviez fait un texte pour chacun, en fait.
Oui, oui, oui. Oui, parce qu'il s'agissait de dessiner à l'intérieur du collectif la possibilité d'un débat aussi d'individus qui sont différents, qui ont des parcours différents, et il me semblait important aussi de faire surgir leur propre personnalité pour, voilà, redonner davantage d'épaisseur aussi au cœur, au commun, voilà, en mettant en abîme, voilà, l'être intime ou objectif de chacun.
Alors là, ils ont appelé ça parcelle de création, c'est parce que donc ils ont fait, on va dire, des rushs, et ils sont en train de... Est-ce que le texte sera remanié une fois la version finale, quand on arrivera à la version finale?
Ouais. Donc là, ouais, c'est une étape, tout à fait. Moi, l'idée que j'avais de titre, hein, pour l'instant, on est encore en recherche d'un titre, hein, je voulais appeler ça Noir. ou dans nos veines, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre aussi d'une amitié extrêmement puissante entre eux, comme quand on est adolescent, des fois on se dit oh, qu'on échange nos sangs, une chose un peu romantique finalement qui existe chez les Molotov, même s'ils le disent pas toujours. Noir, parce que je me suis dit que ça serait intéressant de faire une pièce, pas dans le noir total, mais en tout cas que seulement quelques parties comme ça soit éclairé, que d'un seul coup c'est nos propres abysses, nos propres abîmes, voilà, qui se mettent à parler, à éructer, à la part sombre qu'on a à l'intérieur de soi. C'est un peu une descente dans la caverne de Platon, en quelque sorte. Mais c'est une pièce fragment, voilà, c'est pas une pièce avec une histoire, un début, un milieu, une fin. C'est une chose un peu jetée, un peu balancée comme ça, une espèce de chose qu'on porte en soi, qui éclate d'un seul coup et qui surgit, voilà, des profondeurs. Du noir, des entrailles, si on peut dire.
Vous êtes sereine sur le rendu de tout à l'heure là ?
Oui, 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 parce que moi, ce que j'apprécie au-delà de tout chez les Molotov, c'est leur humanité, c'est leur envie de prendre le plateau, de raconter d'autres histoires, de faire théâtre autrement, voilà, de secouer comme ça l'espace artistique, politique. Donc, voilà, quoi qu'il se passe, je sais que de toute façon, ce sera généreux, ce sera un acte de liberté qui racontera à nouveau l'histoire du théâtre d'aujourd'hui, et ça, c'est bien.
Je suis venu te dire que le spectacle est fini.
Voilà. Voilà, merci. Voilà, c'est tout. Nous tenions à vous remercier pour votre présence.
Non, mais non. Non, c'est pas du tout ce qu'on avait dit. Déjà, moi, à la base, j'avais envie de parler de moi. De fixer un truc, de faire...
Écorcher !
Non, parce que nous nous étions quand même fixés de révolutionner le théâtre. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on se demande. Il faut qu'on trouve une méthode pour...
Pas du tout. C'est pas du tout ça qu'on a dit.
Si, si, c'était ça. Il faut qu'on trouve une méthode pour la révolution. Il faut qu'on révolutionne tout ça.
Oui, bon, révolution, t'es gentil, on fait pas du théâtre militant non plus.
De toute façon, c'était pas militant dans ma vie. On peut pas être militant sur scène.
Non, mais de toute façon, on n'a jamais été d'accord, on n'est pas d'accord, ça changera pas. Regarde, si tu gaspilles pas dans la vie, tu gaspilles pas sur scène.
Là, je gaspille pas, je la mange.
Oui, bon, hein? Ok, c'est bon. Je crois qu'on a posé notre dernière pierre, voilà, c'est la dernière, merci, c'est fini.
Ils aiment le goût du risque et cela donne un spectacle énergique, grinçant et sincère. Les Molotov, vendredi 27 et samedi 28 avril, au Petit Carré d'Art de Saint-Taf.
Vendredi, dans le cadre du festival Au Conte d'ailleurs, le château de Montaigu propose une soirée Conte du Monde et dégustation insolite. Un festival placé sous le signe de la Belgique. Jean-Marc Biollet est l'initiateur de ce festival. Avec Christine Andrien, responsable de la Maison du Conte de Bruxelles, il nous présente cette soirée, ainsi que la conteuse belge qui se produira sur les planches vendredi, Marie-Noëlle Baquet. Jean-Marc Biollet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conteur et vous êtes à l'origine du festival Au Conte d'ailleurs, qui fait une halte vendredi 27 avril et vendredi 4 mai au château de Montaigu. Comment vous est venue l'idée de ce festival ?
Ce festival, ben, parce que je suis un voyageur, j'adore voyager, et puis je me suis rendu compte qu'on pouvait voyager aussi par l'intermédiaire des mots. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des gens, que ce soit des Belges, des Québécois, qui défendaient cette jolie langue qui est le français, et que la meilleure façon de promouvoir son patrimoine, c'est le conte. Parce que les gens sont enracinés dans leur coin, dans leur région, dans leur bout du monde, et qu'ils ont envie de communiquer par le biais du conte, parce que le conte, c'est, à la base, c'est les racines du terroir dans lequel on vit.
Quel est le principe de ce festival ?
Le principe de ce festival, c'est donc la rencontre, la convivialité. C'est le fait d'échanger, parce que quand on parle d'un échange, c'est un échange qui est à la fois aussi lié donc aux mots, aux histoires, mais aussi par rapport à la gastronomie, par rapport aussi à des expositions de photos, de peintures, la culture, tout ce qui peut être culturel. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ces conteurs, au lieu de dormir à l'hôtel, comme si on faisait du théâtre ou n'importe quel spectacle, sont accueillis par des familles d'accueil pour accueillir donc ces conteurs qui viennent de Belgique ou de Martinique.
La conteuse là qui est accueillie vendredi s'appelle Marie-Noëlle Baquet. Est-ce que vous pouvez nous parler d'elle?
Mais écoutez, c'est une conteuse formidable qui est très expressive, qui des contes vraiment enivrants, où à la fois on pleure, où à la fois on rit, qui est une belle personne. Et pourquoi on a choisi le château de Montaigu? Parce que c'est un lieu magique où on fait vibrer les pierres avec, avec les voix de cette conteuse.
Et vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur elle?
Mais écoutez, vous en dire un peu plus, je pense qu'il faut se déplacer, il faut aller la voir. C'est une conteuse qui est beaucoup expressive, qui a beaucoup de sur les mimiques. Ces histoires ont vraiment un lien avec le terroir. Et vous allez voir que c'est très pertinent. Et pour les gens qui aiment tout ce qui est des valeurs, tout ce qui peut être sensible, vont y trouver leur compte.
Alors pour ce spectacle, vous avez travaillé avec la Maison des Contes de Bruxelles?
Oui, oui, tout à fait, qui est une maison qui est repérée sur la Belgique, qui font beaucoup de formations, qui sont en lien un petit peu avec tout ce qui concerne la francophone, ce qui est francophone. Et j'ai la responsable avec moi. J'ai la responsable avec moi que je vous passe.
Eh ben volontiers.
Je vous la passe.
Merci.
Allô?
Oui, bonjour. Vous êtes
bonjour.
Christine Andrien et vous êtes responsable donc de la Maison des Contes de Bruxelles.
Une des responsables, on est deux en fait. Voilà.
Et vous pouvez nous parler un peu de cette Maison des Contes et de ce que vous faites?
Mais oui, bien sûr. Donc la Maison du Conte fête ses 10 ans cette année. Et c'est un lieu à la fois qui accueille évidemment des conteurs, mais aussi où on donne beaucoup de formations à l'art de conter et à tout ce qui touche à l'oralité en général. Donc on y accueille un public adulte, mais aussi un public enfant, des écoles, on organise des balades contées, enfin voilà, tout ce qui a trait à l'oralité. On mène des projets aussi en partenariat avec l'étranger, comme la France, puisqu'on est ici, et puis aussi le Maroc et le Québec.
Et comment s'est mis en place le partenariat avec le festival Aux Contes d'ailleurs?
Eh bien écoutez, ce sont des rencontres, des hasards, des amis communs qui nous ont présentés et on s'est entendus et on trouvait que c'était un projet qui pourrait convenir à nos deux associations. Et on s'est dit, lançons-nous, allons-y. Nous, on accueillera plus que probablement nos amis des Midi-Pyrénées en 2013, en octobre 2013, lors du festival qu'on organise tous les deux ans à Bruxelles, qui s'appelle Bruxelles, ça compte. Et donc ça sera l'occasion de faire un focus aussi sur la région Midi-Pyrénées. Voilà.
Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la conteuse qui va se produire vendredi, Marie-Noëlle Baquet?
Sur Marie-Noëlle Baquet, bien sûr. Elle travaille à la Maison du Conte de Bruxelles également. Et donc c'est une jeune personne, mais comme vous, elle est assez jeune, elle commence, elle débute, mais elle a beaucoup d'énergie et elle est très expressive, très personnelle, elle a une personnalité très, très intéressante. Voilà, donc elle est. On travaille en équipe, donc que vous dire de plus? Elle va vous présenter des contes, je pense, plutôt d'origine, plutôt du Sud, et elle va vous emmener dans des aventures extraordinaires, des histoires d'amour.
Ah, c'est formidable.
C'est bien ça.
Ah, c'est bien, ouais, c'est très, très bien.
Ah. Voilà. Et donc, vous verrez, c'est vraiment une belle personnalité.
Et alors, moi, j'ai une question. Comment est-ce qu'on devient conteur ou conteuse?
Alors, je pense que pour chacun, c'est un peu un trajet personnel. Moi, mon histoire à moi, ce sont des rencontres avec la parole. Je me suis un jour posé la question de savoir, tiens, pourquoi est-ce que j'aime raconter les histoires? Puis j'ai été un petit peu plus loin. J'ai suivi des formations, j'ai fait des rencontres, mais j'avais pas dans l'objectif d'être conteuse au départ. Je pense que je vais vous repasser Jean-Marc parce que lui, il a un autre parcours très intéressant, je trouve.
D'accord.
Je vous le passe.
Merci à vous. Hein.
Alors, à bientôt.
À bientôt.
Allô, oui.
Oui, donc je posais la question à Christine Andrian.
Oui.
Comment est-ce qu'on devient conteur ou conteuse?
Eh bien, moi, j'avais une carrière de sportif, donc beaucoup, beaucoup de sport, beaucoup de performance, toujours à la recherche de la performance. Et puis, un jour, j'ai fait une belle rencontre au Népal, j'ai rencontré un moine tibétain qui m'a dit, mais qu'est-ce que vous cherchez? Il dit, moi, ce que je cherche le bonheur. Il dit, vous cherchez le bonheur? Faites penser à un poisson qui dit « je meurs de soif ». J'ai déjà vu un poisson mourir de soif? Donc j'avais fait un super sommet, un sommet de 7000 mètres d'altitude. et je devais rentrer donc en France, et au lieu de garder le souvenir de cette performance physique qui était le sommet de, qui faisait 7000 mètres d'altitude, ce que j'ai gardé, c'est la phrase de ce moine tibétain qui m'a dit, qui me fait penser à un poisson qui dit je meurs de soif. Et je me suis rendu compte que les mots, c'était la meilleure façon de pouvoir s'exprimer, la meilleure façon d'aller vers les autres. Et donc c'est ça que je crois qui a été vraiment le déclic pour devenir un conteur. Et donc je me suis intéressé aux contes à partir de ce moment-là.
Et vous en écrivez vous-même ou vous dites des contes
Non, oui, ce sont des histoires que j'écris. Mais je dois avouer qu'aussi dans ma famille, j'avais mon grand-père qui comptait aussi, qui racontait des histoires dans son petit café au fin fond des Pyrénées, et que ça m'a inspiré et que ça m'a donné envie après de reprendre la relève.
Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose?
Mais je vous souhaite de venir à cet endroit qui est un endroit magique, qui est vraiment ce château, qui est, moi j'ai eu le coup de cœur l'été dernier lors d'un festival de théâtre, parce qu'il y a une équipe très dynamique qui est sur place et qui a vraiment le sens de l'accueil. Donc déjà, le lieu, il est magique en soi. Et ensuite, bon, ces conteurs qui vont venir de Belgique et de Martinique vont vous enchanter donc ce château. Voilà, c'est un lieu magique, une rencontre avec l'émotion et avec donc deux pays, qui est la Belgique et la Martinique.
Jean-Marc Biollet, ben merci beaucoup.
De rien.
Et puis, donc à vendredi. Ce spectacle de contes sera précédé d'un repas médiéval. Tiphaine Vetter, chargée de l'animation et de la communication au château de Montaigu, détaille le menu et le déroulement de la soirée.
Donc la soirée de vendredi sera donc sous le signe des contes belges. Et pour accompagner cette conteuse, puisque c'est une femme, nous organisons un repas médiéval. Voilà.
De quoi est composé ce repas médiéval ?
Donc le repas médiéval, c'est plus une assiette médiévale qu'un repas à part entière, puisqu'on aura un plat principal et un dessert. Et donc pour le repas, on s'est tout simplement inspiré de livres de recettes médiévales. Donc le repas sera composé d'un riz au safran, qui accompagnera un filet de porc à la sauce abricot. Au Moyen-Âge, on a beaucoup de plats sucrés-salés, beaucoup plus qu'aujourd'hui, et beaucoup d'épices. Puisque le sel étant très très cher, on remplaçait par d'autres épices. Et le dessert sera un taillis aux raisins et aux pommes. Pareil, spécialité médiévale.
Cette soirée, elle débute à quelle heure?
Alors on commencera à accueillir les gens à partir de 19h pour la partie repas. Un petit bar aussi sera mis en place. Et pour la soirée conte, on commencera à accueillir les gens à partir de 21h pour un début de soirée à 21h30. Le repas risque d'être animé, donc là c'est laissé complètement à la liberté des conteurs qui animeront le repas un peu à leur guise, en fonction de l'ambiance, de leur motivation du jour. Musique, petite histoire, voilà, ce sera vraiment à leur feeling.
Est-ce qu'il faut réserver pour cette soirée?
Alors il faut réserver pour les repas, obligatoirement, puisqu'on a une capacité d'accueil pour les repas qui est assez faible. Donc on réserve les repas et après pour la soirée conte, non, là, a priori on pourra accueillir tout le monde.
Le tarif est de combien?
Pour la soirée repas plus compte, les adultes sont à 15€, les enfants à 10. Et pour les comptes seulement, donc à partir de 21h, 8€ pour les adultes, 4€ pour les enfants.
Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose?
Oui, les gens peuvent très bien aller consulter notre site web sur lequel on essaye de mettre toujours un peu plus de vie et communiquer sur ce qui se passe au château de Montaigu. On essaye aussi de mettre en avant tout ce qui peut se faire autour du château, parce que nous faisons des visites au château, mais on a aussi plusieurs autres bâtiments qui peuvent se visiter, et puis surtout beaucoup de randonnées autour de Montaigu. Et pour ceux qui ont envie de passer une journée en famille et profiter à la fois du patrimoine bâti et du patrimoine naturel, venez nous voir.
Merci beaucoup, Tiphaine Vetter.
Avec plaisir.
La soirée conte du monde et dégustation insolite, c'est vendredi au château de Montaigu avec la conteuse belge Marie-Noël Baquet. Il est nécessaire de réserver pour le repas. Pour plus d'infos, www.château-de-montaigu.jimdo.com. Et on retrouvera ce festival de contes du monde la semaine prochaine pour une soirée placée sous le signe de la Martinique.
CD de la semaine. Le CD de la semaine.
Le CD de la semaine.
Sur Radio Saint-Taf.
Like I told you, honey, don't make me sad, don't make me cry. Sometimes life is not enough and the road gets tough. I don't know why. Keep making me laugh, let's go get high. The road is long, we'll carry on, try to have fun.
Born to Die, une chanson de Lana Del Rey extraite de l'album éponyme. Ongles vertigineux, histoire d'amour animal, tigre de compagnie et accident sanglant en toile de fond, Amérique omniprésente, tatouage et blazer à franges. La troublante américaine désamorce le mythe du grand amour et nous rappelle à l'ordre. Peu importe où nous mène cette pop tragique, puisque de toute évidence,
we would wanna die.
Born to Die, un CD de la semaine que vous pouvez aussi retrouver sur le site internet de Radio Saint-Afrique.
Ladies and gentlemen, nous avons l'honneur de vous présenter Annie fait son cinéma. La chronique culturelle d'Annie Dupuy.
Elle se réveille. Elle a les yeux bouffis, elle est au radar. Elle s'enfile une large rasade de coca. Elle se gratte la tête et donne à Dulce, c'est son chien, une barquette. Elle s'habille, elle écrit sur son ordi et elle se regratte la tête. Sa tête, elle n'est pas terrible, la tête à Mavis. Elle regarde ses messages. Tiens, un faire-part de naissance, celui de l'enfant de Buddy, son ex, qui vit dans un trou perdu du Minnesota. Elle, par contre, elle est dans la capitale du Minnesota. Alors, ni une ni deux, elle fait sa valise, prend ses bigoudis, son maquillage, et telle une croisée qui veut délivrer le tombeau du Christ à Jérusalem, elle part pour soustraire Buddy à sa femme. Femme fatale. Infantile, narcissique et alcoolique, non, pas l'épouse légitime, l'autre, Mavis. Elle ne voit pas le monde. Elle ne voit pas le monde du tout comme il est, mais comme elle voudrait qu'il soit. Et le plus incroyable, dans le film de Jason Reitman, celui qui a fait Juno, c'était l'histoire d'une adolescente enceinte, et In the Air, où il y avait Clooney, qui collectionnait les miles en parcourant les États-Unis pour licencier les gens. Alors, le plus incroyable donc de Reitman, c'est d'avoir choisi l'égérie de Dior, celle qui, dans une pub hein, qu'on voit sans arrêt à la télé, croise Marilyn, Grace Kelly ou Marlene Dietrich, avant de retirer son collier. Et je veux parler de la bellissime Charlize Theron, qu'on adore tous. Donc, Mavis, alias Charlize, donc, écrit des romans pour adolescents, hein, dans la vie, c'est son métier. Les fameux young adultes, du titre du film. Mais elle ne les signe pas. Elle a été mariée, elle ne l'est plus. Elle a été reine de beauté au lycée, elle ne l'est plus. Elle a failli réussir, mais elle n'a pas réussi. Elle a été jeune, elle ne l'est plus. Elle a un t-shirt Hello Kitty. Ah ben ça, elle l'a encore. Et même, elle le porte. Alors, la fameuse Mavis va se heurter à la réalité et le choc sera brutal. Ses tentatives de séduction sont pitoyables, mais elle y croit. C'est obligé qu'il l'aime encore. Nous, on sait bien qu'elle est dans le déni, qu'elle est dans le fantasme. Et elle va se jeter dans la reconquête de son ex, aidée par un loser estropié. Elle va en plus retrouver sa famille, dont on comprend pourquoi elle l'a quittée d'ailleurs. Elle est à terre, Mavis. Ça y est. Humiliée, ridiculisée, saoule. Mais quelqu'un l'aidera à relever un peu, un tout petit peu la tête. Parce que il y a pire qu'elle. Alors, elle se promène dans le film avec sa mini, c'est une voiture, son chien et la ville où elle va retourner. Je ne sais pas si ce que je vous dis vous donne envie d'aller voir le film, parce qu'on passe de la tendresse à la rigolade, de la compassion à l'exaspération. Bref, on voit comme c'est difficile de passer du statut d'adolescente à celui de young adult. Par contre, il paraît que Hunger Games... est un livre de science-fiction qui cartonne. Le film aussi, d'ailleurs. Alors, je me suis dit, allons-y, avec quelque part la crainte d'être terrorisé. Alors, vous connaissez tous le pitch. Dans un monde d'anticipation, tout à fait inégalitaire. Ah oui, ça existe, ça, un monde inégalitaire ? Des jeunes sont envoyés comme tribu, avec un T hein, au bout. C'est comme contribution. Pour s'affronter, donc, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Alors, forcément, l'héroïne, elle est jolie. C'est Jennifer Lawrence du film Winter's Bone. Forcément, les bêtes sont féroces. Forcément, les flèches des arcs touchent leur cible. Forcément, les épreuves rapprochent un jeune homme de l'héroïne. Et forcément, à la fin, il ne meurt pas. Il faut dire que dans ce pays imaginaire, on a changé la loi électorale. Ah non, j'ai rien dit, hein, pour qu'il survive. Et c'est heureux, car il paraît qu'il y a deux suites prévues à ce film. J'ai lu quelque part qu'elles seraient plus politiques, les deux suites de Hunger Games. Parce que là, quand même, tout est assez lisse. Hein. Le monde est injuste, la dictature des images, l'asservissement des faibles. Mais bon, ça se laisse voir, on se prend au jeu, c'est pas René, c'est pas les frères Cohen. Mais comme je l'ai lu quelque part, ouvrez les guillemets, pour pouvoir revenir chez elle, Katniss, c'est l'héroïne, va devoir une fois dans l'arène faire des choix impossibles entre la survie et son humanité, entre la vie et l'amour. Fermez les guillemets. Vaste programme.